J'ai longtemps observé les humains, et ce qui m'est apparu, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète.
Ça fait peur, l'agent Smith du film Matrix pour introduire la une de la science aujourd'hui, Axel, puisqu'aujourd'hui on s'intéresse à l'impact faramineux de l'homme sur les autres mammifères.
Oui, on va commencer avec un chiffre, 7 millions d'années. C'est le temps qu'il faudra aux mammifères pour se reconstruire, pour reconstruire une biodiversité équivalente à tout ce que nous avons détruit. C'est pas mal, Mathieu.
Ouais, rien que ça, donc, 7 millions d'années.
Oui, et ça, c'est seulement si on endigue la 6e extinction de masse. Et c'est des estimations qui nous viennent d'une équipe danoise qui s'est intéressée au futur du groupe des mammifères sur la planète. Et pour en parler, pour comprendre ces chiffres aussi, on en discute avec vous, Géraldine Véron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle et spécialiste des mammifères carnivores. Alors, comment est-ce qu'il faut les comprendre, finalement, ces chiffres? Ces millions d'années d'évolution future, ils correspondent à quoi?
En fait, ça a été calculé en prenant en compte les taux supposés de spéciation et d'extinction au cours du temps, par rapport à ce qu'on connaît du passé. Mm-hmm. Et en fait, ils ont fait une sorte d'extrapolation pour dire, si on s'arrête maintenant, enfin, ils ont fait plusieurs scénarios, dont un, et si maintenant on maintient et on conserve nos espèces, combien de temps il faudra pour récupérer la diversité qui est déjà éteinte. Et notamment, on sait qu'il y a à peu près 300 espèces de mammifères qui sont éteintes depuis l'action de l'homme. Donc peut-être vers la fin du Pléistocène où son action était vraiment importante.
C'est quand le Pléistocène?
Là, les périodes dont il parle, c'est la fin, on va dire, de l'action de l'homme, quoi. C'est-à-dire dans les 100 derniers milliers d'années.
Ça ne veut pas dire que dans 7 millions d'années, les éléphants vont réapparaître. On parle d'autres mammifères.
Voilà, tout à fait. C'est ça la question aussi de cette étude, c'est que finalement, même si on estime qu'avec le temps, parce qu'il y a de la spéciation, parce que l'évolution continue, homme ou pas, on va retrouver une certaine diversité de mammifères, mais les lignées ou les espèces actuelles qui s'éteignent, ou qui sont éteintes, ou qui vont s'éteindre, ne vont jamais réapparaître.
Mmh. Ça veut dire aussi que la valeur d'une espèce aujourd'hui, c'est le temps qu'il lui a fallu pour se spécialiser, pour acquérir son niveau d'évolution dans l'arbre phylogénique?
Oui, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, quand des taxons, des groupes, des espèces ont une longue évolution et donc sont des lignées anciennes et peu diversifiées, c'est-à-dire pour lesquelles il reste un représentant à l'heure actuelle, cette histoire, elle est évidemment très longue dans le passé, donc forcément, on imagine que ce serait très long dans le futur pour obtenir quelque chose de similaire. Et puis ça veut dire aussi que ces espèces sont très particulières, elles partagent peu de traits évolutifs ou adaptatifs avec d'autres espèces, puisqu'elles n'ont pas de très proches parents. Donc ça veut dire que quand on les perd, on perd leur histoire évolutive, mais on perd aussi leur trait fonctionnel, leur rôle dans nos écosystèmes, en fait.
Et concrètement, ça veut dire que le rat des champs a moins de valeur que le pangolin, alors?
Alors, c'est pas qu'il a moins de valeur, c'est que son histoire évolutive est plus récente, avec plus d'espèces proches qui vont peut-être pouvoir le remplacer, on va dire, dans les écosystèmes, alors que des groupes comme les pangolins, qui ont une longue histoire, qui sont un petit groupe d'espèces, donc pas très fournies, si on les perdait, on perdrait effectivement toutes leurs fonctions et toute leur histoire, toute leur évolution qui dure depuis des millions d'années.
Et pour vous, c'est une bonne manière de calculer que cette méthode danoise, là, qui est publiée dans les PNAS?
Alors, c'est leur méthode, elle est d'abord, c'est assez touffu parce qu'ils ont fait plein de choses, plein de tests différents. Ils ont pris aussi le parti pris de partir de la situation préhistorique, on va dire, alors qu'on aurait pu se dire, on va regarder sur là où on pense que l'action de l'homme est la plus prégnante, c'est-à-dire peut-être les deux, trois derniers siècles. Donc ça, c'est peut-être discutable. Maintenant, leur façon de faire et d'utiliser ces phylogénies et d'utiliser aussi ces actions évolutives, pas juste des choses quantifiées, un nombre d'espèces simplement, c'est assez, effectivement, assez important et assez intéressant.
Merci beaucoup Géraldine Véron, en tout cas pour cet éclairage, vous qui êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et spécialiste des mammifères carnivores. Merci beaucoup à vous et puis Axel, on se retrouve demain.
Oui, c'est ça, demain.
Allez. En bref, dans le reste de l'actualité, une structure colossale au sein de l'univers jeune vient d'être détectée par l'instrument VIMOS de l'Observatoire européen. C'est une équipe internationale d'astronomes qui détaille ce proto-superamas de galaxies qu'ils ont baptisé Hyperion grâce à de nouvelles mesures et à l'étude approfondie de données d'archives. Il s'agit de la structure la plus étendue et la plus massive découverte à ce jour. Elle ferait 1 000 000 000 000 000 de fois la masse de notre Soleil et serait datée d'une époque reculée il y a 11 milliards d'années. Pompéi n'a pas été ensevelie le 24 août, mais le 24 octobre. Un graffiti remet en cause la date de l'éruption géante du Vésuve en l'an 79. Sur ce tag griffonné au fusain et mis au jour dans la maison au jardin, un des édifices actuellement en cours de fouille, on peut lire « Il s'est baffré », puis la date du 17 octobre. Or, si l'éruption avait eu lieu en août, personne n'aurait pu se tenir là et écrire ce message. Il faut donc maintenant retenir la date du 17 octobre de l'an 79 et changer les livres d'histoire. Et puis des chiens domestiques ont voyagé avec les hommes entre le Proche-Orient et l'Europe au Néolithique en étudiant la génétique de plusieurs populations de chiens actuels et anciennes. Des chercheurs montrent que ces chiens arrivés du Proche-Orient se sont reproduits massivement avec les chiens européens. Ils ont été capables également de tracer le voyage des humains et suggèrent que le chien a joué un rôle important dans sa relation à l'homme au tout début de l'agriculture.